Les manifestants tinrent de toutes leurs forces, sans lâcher pied. Ils ne tireront pas. En effet, ils ne tirèrent pas. L'histoire de la Révolution russe de Léon Trotsky. C'est l'histoire d'un gars qui va raconter 8 mois de l'histoire d'un peuple en 1000 pages. Quoi ? 1000 pages ? Et oui, parce qu'on est en 1917 et le peuple russe, en cette courte période, va vivre 2 révolutions. Le gars qui raconte ça, c'est Léon Trotsky. Il a vécu les événements. Mais le bouquin, ça raconte pas comment lui, il a fait et vu les choses. Le gars, il est sérieux. Il s'appuie sur des documents, des témoignages. Il recoupe les faits. Bref, il agit en historien. Les héros de cette histoire, ce sont les ouvriers, les soldats, les paysans russes, et particulièrement de Petrograd, enfin Saint-Pétersbourg, si vous voulez. En 1917, la Russie est en guerre contre l'Allemagne avec ses autres petits copains impérialistes, la France, la Grande-Bretagne, etc. Ceux qui dirigent le pays, ce sont le tsar Nicolas II et sa clique, sa femme, Raspoutine et les autres. Ces gens-là, ils se la coulent douce dans leur palais pendant que les soldats, anciens paysans, se font tuer à la guerre. Le reste du peuple crève la dalle parce que toutes les ressources sont mises à contribution de l'effort de guerre. Ils crèvent la dalle et puis ils bossent comme des fous. Et s'ils ne sont pas contents, c'est direction la Sibérie ou le peloton d'exécution. Nicolas II, il passe pour un idiot, mais il n'en est pas moins cruel. Bon, à un moment, ça suffit quand même. Le 23 février, journée des femmes, et les jours suivants, ça commence à barder du côté des quartiers ouvriers. Les soldats qu'on envoie mater tout ça, eux aussi, ils en ont marre, et du coup, ils se rallient aux autres. Et bim, première révolution, ciao le tsar. Ok, mais du coup, qui prend le pouvoir ? Ben c'est un peu la question. Depuis 1905, on a vu apparaître des conseils de travailleurs, soldats, paysans, par usine, caserne, etc. et par ville. Ce sont les soviets. Alors là, on se dit, et si le soviet de Petrograd, il prenait le pouvoir ? Vous avez compris, ça donnerait le pouvoir à ceux qui font vraiment tourner le pays. Ouais, sauf que les partis à la tête du soviet, les mencheviks et autres socialistes révolutionnaires, ils pensent que c'est un peu tôt. Ils ont lu dans des livres sérieux qu'il faut d'abord avoir une révolution bourgeoise. Donc ils refilent la patate chaude à ceux dont la seule qualité c'est d'avoir du pognon, ceux-là même qui n'ont pas bougé le petit doigt pour virer le tsar. Donc là les gens, ils sont un peu circonspects, ils attendent de voir. Bon ils ont vite vu, hein, que les bourgeois ne vont pas leur donner ce qu'ils veulent, la paix et le partage des terres surtout. Forcément ça crée des tensions. Le gars dans le bouquin, Léon, il nous raconte aussi très bien comment évoluent les rapports de force. Parce qu'il y a un petit parti qui, mine de rien, essaie de sentir et d'inverser ces rapports entre la masse du peuple et le gouvernement provisoire. En gros, qui a le dessus sur l'autre. Sentir ça, ça leur permet de comprendre à quel moment le peuple, il peut essayer de dézinguer le gouvernement provisoire sans se faire dézinguer encore plus. Ce petit parti, c'est le parti bolchevique, qui visiblement prend plus de place à mesure qu'il gagne la confiance des ouvriers et des soldats. Les bolcheviks, ils sont sur le terrain. Ils ont lu les mêmes livres que les autres, mais ils sentent que la vie, c'est un peu plus compliqué que des théories qui, de base, avaient vocation à être adaptées aux situations. Je vous la fais courte, à force d'être pris pour des idiots, par les bourgeois et les partis conciliateurs, hein, mencheviks et autres, les travailleurs s'agacent légèrement. Toujours pas de paix, loin de là, et toujours pas de partage des terres pour ceux qui la cultivent. Donc ça discute pas mal dans tout le pays, ça s'organise et ça reprend le slogan des bolcheviks, « Tout le pouvoir aux soviets ». Le gouvernement provisoire, à force de complots qui ratent, est désavoué et a plus grand monde derrière lui. Et bim, 2e révolution en octobre. Cette fois-ci, on lâche pas le pouvoir. C'est sous la direction des bolcheviks, et notamment de Lénine, que les soviets prennent la tête du pays. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout réinventer. Extrait du tome 1, les journées de février. Durant toute cette journée, les foules populaires ne firent que circuler, de quartier en quartier, violemment pourchassées par la police, contenues et refoulées, par la cavalerie et par certains détachements d'infanterie. On criait « À bas la police !» Mais de plus en plus fréquemment partaient des hurrahs à l'adresse des Cosaques. C'était significatif. La foule témoignait à la police une haine féroce. Les agents à cheval étaient accueillis par des sifflets, des pierres, des glaçons. Toute différente fut la prise de contact des ouvriers avec les soldats. Autour des casernes, auprès des sentinelles, des patrouilles et des cordons de barrage, des travailleurs et des travailleuses s'assemblaient, échangeant des paroles amicales avec la troupe. C'était une nouvelle étape, due à la croissance de la grève et à la confrontation des ouvriers avec l'armée. Cette étape est inévitable dans toute révolution. Mais elle semble toujours inédite. Et en effet, se présente chaque fois sous un nouvel aspect. Ceux qui ont lu ou écrit à ce sujet ne se rendent pas compte de l'événement quand il se produit. À la Douma d'Empire, on racontait ce jour-là qu'une formidable multitude de peuples couvrait toute la place Znamenskaya, toute la perspective Nevski et toutes les rues avoisinantes et que l'on constatait un phénomène absolument insolite. La foule révolutionnaire et non patriotique acclamait les Cosaques et les régiments qui marchaient en musique. Comme un député demandait ce que cela signifiait, un passant, le premier venu, lui répondit « Un policier a frappé une femme de sa naïgaïka, les Cosaques s'en sont mêlés et ont chassé la police. Il se peut que les choses ne se soient pas passées ainsi, personne ne serait en mesure de vérifier, mais la foule croyait que c'était bien ça, que la chose était possible. Croyance qui ne tombait pas du ciel, mais qui venait d'une expérience déjà faite et qui par conséquent devait être un gage de victoire. »